Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 67. Cette émission est avec Virginie Berger, spécialiste du marketing et du marketing digital pour les musiciens et les artistes. Baignée dans le monde des médias, de la musique et de l'Internet depuis 15 ans, Virginie a accompagné l'industrie de la musique à travers cette transition, si j'ose dire cette révolution. Étant directrice marketing de MySpace France, elle a vu son ascendance et puis son crash. Dans cet entretien, nous avons parlé des enjeux pour les musiciens et les labels aujourd'hui et combien les problèmes peuvent se ressembler avec ceux des marques. Quel enseignement tirer? Comment se différencier? Comment se faire entendre? Un entretien d'envergure. Je suis sûr que vous serez d'accord. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Cet après-midi, juste avant de partir en vacances, je l'avoue, j'ai un invité sur le show qui s'appelle Virginie Berger. Alors Virginie, c'est un cas d'école. Enfin, on verra, vous allez découvrir. Virginie, je l'ai rencontrée sur Twitter et il s'avère qu'on avait plein de choses en commun. Donc c'était un absolu qu'on devait se rencontrer pour parler de, ben, des médias sociaux, le marketing digital et la musique. Virginie, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais?
Bonjour, je dirige une agence qui s'appelle Don't Believe the Hype, DBTH, où je fais de la stratégie de l'accompagnement pour les artistes, les industries culturelles et créatives et les technologies émergentes.
Alors, je sais que tu as créé ça il y a à peu près plus de 2 ans, quelque chose comme ça, mais tu as un long parcours dans la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ce que tu as fait dans ton parcours, qui tu es?
Oui, ça fait 13-14 ans maintenant que je travaille. Quand j'étais étudiante, j'avais créé un magazine qui s'appelait Rock Sound, qu'on a revendu. J'ai travaillé pour Microsoft, j'ai fait le lancement de MSN et d'Hotmail, mais je m'occupais des partenariats musicaux. J'ai travaillé pour Omnicom, où je m'occupais de tout l'entertainment aussi. Ensuite, je suis passée au groupe Énergie, donc qui est Énergie, Nostalgie, chez RFM, Rire et Chanson, MFM, voilà, plein de stations, où je m'occupais de tous les partenariats musicaux. Et ensuite, je suis partie chez MySpace, où je dirigeais le marketing et le contenu pour la France et les territoires francophones. Donc oui, ça fait un petit moment.
Oui, en plus, donc, ça conjugue à la fois la musique et l'Internet. Et ce qui est évidemment un peu une des industries la plus touchée dès le départ. Aujourd'hui, tu te retrouves à faire du conseil pour les musiciens. Alors moi, notre intérêt quelque part, c'est de voir combien ça peut être intéressant de comprendre pour les marques. Alors quand tu es face à un musicien qui est un client, comment est-ce que tu construis un plan pour l'aider?
Tout dépend déjà de ce qu'il veut. Est-ce que lui vient me voir? Est-ce que c'est son label? Est-ce que c'est son manager? Est-ce que c'est son producteur? Première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut créer du buzz pour se faire connaître et pour derrière aller voir des maisons de disques ou autres d'ailleurs? Est-ce que c'est pour une sortie d'EP? Est-ce que c'est pour une sortie de single? Est-ce que c'est pour une sortie d'album? Est-ce que c'est pour une tournée? Donc il y a plein de choses à voir ensemble pour savoir comment est-ce qu'on va le travailler. Pour une sortie d'album, on travaille sur 3-6 mois à peu près, parce qu'une promotion, c'est au moins 3 mois avant. Ça a beaucoup changé, c'est assez long. Une tournée, c'est sur toute la durée de la tournée. Il m'arrive aussi de travailler sur des événements spécifiques. Là, je travaille sur l'événement Castelbajac et Nouvelle Vague qui va avoir lieu à la Cigale début octobre. Donc, on commence à travailler maintenant. Donc, tout dépend vraiment de ce qu'on veut faire parce que c'est pas les mêmes médias et c'est pas le même travail, en fait.
Non, je comprends. Alors, la musique, ça a tellement basculé. Quelquefois, enfin, en tant qu'amateur de musique, parce que Dieu sait, je l'aime ça, c'est que j'ai l'impression que les nouveautés ont du mal à percer. Qu'on est sur beaucoup de retournées, sur du vieux recraché, on va dire, entre guillemets. Et comment est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut percer?
Les nouveautés ont même tellement de mal à percer qu'aux États-Unis, à fin juin, c'est le back catalogue qui a plus vendu que les nouveautés. Donc oui, elles ont beaucoup de mal.
C'est un bon signe pour EMI, par exemple.
Exactement, faut voir ça comme ça. Comment est-ce qu'un jeune artiste peut percer? C'est justement toute la problématique, c'est que c'est très difficile pour un jeune artiste de percer. Il y a plus de jeunes artistes qui break, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire qui arrivent vraiment à exploser. Donc ils arrivent vraiment à percer sur du long terme. C'est-à-dire qu'il y a deux problématiques. Soit vous signez dans une maison de disque, une major, on va dire, et dans ce cas-là, vous êtes sur un single ou un album et pas plus. Soit vous partez sur l'indépendant, et là, vous mettrez un petit peu plus de temps à percer. Donc moi, je conseille toujours, toujours dans le contexte de rapport de force, de partir vers l'indépendant pour prendre un peu plus de temps. Et ensuite, on perce, on va pas se leurrer, c'est grâce à Internet. Hein. C'est Internet qui va faire qu'il y aura plein de vues sur YouTube, et qu'une radio va peut-être se dire c'est intéressant. C'est Internet qui va porter un clip, c'est des blogueurs qui vont porter un artiste. Donc sans Internet et sans derrière une visibilité vraiment importante sur tous les réseaux, c'est compliqué.
Alors, si je suis musicien, j'ai face à moi, j'ai un asset qui est la musique. Bon, après, il y a l'image autour de ça. Il y a ma marque, qui suis-je, ma personnalité. Il y a l'audio, il y a la vidéo, il y a les photos. Et puis après, il y a les plateformes pour les mettre en place. Comment s'y retrouver ?
Alors, c'est pas très compliqué pour la musique au final. Il y a deux choses très importantes, c'est YouTube et c'est Facebook. Voilà.
On va pas Spotify ?
C'est différent parce que Spotify, Deezer et toutes les plateformes de streaming, c'est de la visibilité et c'est là surtout quand l'artiste a un album de près qui peut monétiser. Mais au démarrage, avant qu'il arrive au stade de « j'ai réussi à avoir un distributeur digital qui va me placer sur les plateformes de Deezer et de Spotify », il faut déjà qu'il ait au moins une fanbase, puis un peu d'argent pour produire et puis voilà un peu de visibilité. Sans compter qu'en plus, Deezer et Spotify... C'est pas l'objectif ultime. C'est-à-dire, l'objectif ultime, c'est déjà d'arriver à avoir de la visibilité sur Facebook et sur YouTube pour pouvoir derrière avoir encore plus de visibilité, pour pouvoir créer son site web, pour pouvoir derrière se montrer, pour derrière trouver un distributeur digital qui va accepter de le prendre pour pouvoir le mettre sur les plateformes de streaming. Donc vraiment, les deux premières choses, c'est Facebook et c'est YouTube. C'est les deux choses sur lesquelles on peut pas partir. Autre chose, bien évidemment qu'il y a l'audio. Ça, c'est quand même la musique après tout, donc prioritairement qualité audio, la plus haute qualité possible surtout.
Qui serait quoi ?
FLAC ou WAV. MP3, ça se donne quoi. MP3, c'est sympa pour le faire balader sur Internet, mais c'est vraiment du FLAC ou du WAV. Ensuite, vraiment de l'image YouTube. C'est comme ça que la musique, c'est vraiment comme ça que la musique est écoutée, même si c'est de l'image, mais c'est vraiment YouTube.
Alors ça me fait penser que quand je travaille avec des clients, je travaille sur deux angles, un le long terme et le court terme. Le long terme étant quelque part la finalité. Le long terme étant ma notoriété, ma base solide. Ensuite, il y a l'édition, la musique qui arrive, un single, et puis il y a des feux d'artifice, et puis on fait des choses, on achète peut-être du trafic, ou en tout cas on fait des animations pour amener vers ce qui est le long durée. Donc une campagne pour amener vers ce que j'appelle le programme. Quand tu es face à un musicien, tu veux quand même qu'il y ait une marque, une identité un peu particulière. Comment est-ce que tu arrives à identifier cette différenciation d'un musicien aujourd'hui ?
C'est justement sa musique, première chose. Et ensuite, c'est l'image, c'est l'artwork, c'est la vidéo. Et c'est malheureusement pas autre chose, parce qu'un artiste a quand même beaucoup de difficultés à se produire en live, notamment s'il n'a pas de tourneur, par exemple. Il y a des vrais problèmes en France pour tourner, c'est-à-dire qu'un artiste, lorsqu'il n'est pas signé dans une maison de disque, ne tournera pas. Ou alors il va tourner par lui-même, et dans ce cas-là, ça veut dire lui-même appeler les cafés, les bars, voilà, les choses comme ça, il ne sera pas payé. Enfin, on est vraiment dans un cercle vicieux qui est que de moins en moins d'artistes sont signés en maison de disque, de plus en plus d'artistes décident d'y aller tout seuls, mais les tourneurs ne peuvent pas prendre de risques, parce qu'ils sont producteurs de spectacles. Et donc ils ne peuvent pas non plus produire tout, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour arriver à trouver la différenciation, c'est justement le travail au quotidien. C'est à qui il s'adresse, quel type de musique il fait, de qui quand même on peut le rapprocher. C'est important pour le positionner. C'est important parce que au démarrage, lorsqu'on connaît pas la musique, automatiquement le grand public a besoin d'avoir des artistes similaires.
C'est comme dans le film, on dit. C'est ce type de film qui ressemble ou croise cet autre film.
C'est ça. Pour un artiste indépendant, on est obligé constamment de le rapprocher d'autres artistes ou de définir un style spécifique. On travaille sur un groupe qui s'appelle les Elderberries, qui est un groupe de stoner rock. Donc maintenant, ils sont connus, ils en sont leur troisième album, mais on doit quand même dire stoner rock pour rapprocher de Queen of the Stone Age, voilà, et de tous ces groupes-là. On a une jeune artiste électro qui, à elle toute seule, complètement indéfinissable, mais on est quand même obligé de dire c'est une sorte de pitches pour que voilà un blogueur se dise ah oui ça m'intéresse, parce que c'est que comme ça aussi qu'on peut avoir des sites influents en musique.
Oui, parce qu'à la fois, on a besoin d'une catégorie, mais on veut être différent. C'est mais ça. Si on est trop différent, on n'est pas classable. Si on n'est pas classable, on ne sait pas où le mettre et ça circule c'est ça.
Ben, c'est la vraie problématique de la pop et du rock. Je fais de la pop, super, bien. Et comment ? Voilà où je fais du rock. Donc, quand on parlait de court terme ou de long terme, par exemple, le court terme, bah, c'est justement de créer la fanbase. La fanbase, on la crée comment ? Par rapport aux réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est vraiment l'image. Nous, on le voit au quotidien sur les artistes avec lesquels on bosse. On sort un titre. Bon, il va avoir un petit retour, c'est pas mal. Dès lors que le clip arrive, automatiquement, c'est là où il y a une vraie transformation.
Alors, j'ai une question, tu me fais penser à ça. Je pense à mon bin sur iTunes, parce que j'ai quelque part 140 gigas de musique, malheureusement plutôt en MP3, enfin AAV sinon, et j'essaie de les classer, nettoyer, avoir des genres un peu nettoyables, mais parfois je ne sais pas les classer. Est-ce qu'il existe, selon toi, un endroit qui permettrait de savoir comment classer quoi ? Est-ce que c'est pop ou c'est rock ou c'est grunge ou c'est... Enfin, il y a tellement de titres.
Non, c'est un énorme chantier qu'il y a en France, tout de suite, mais dans d'autres pays aussi. La Commission européenne bosse aussi dessus, c'est le chantier des métadatas. Voilà, on est en plein chantier dessus parce qu'on essaie de créer des métadatas qui seraient les mêmes pour toute l'Europe. Notamment pour tout ce qui est dépôt de titres sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer et partout. Donc c'est un chantier énorme. Cap Digital s'était mis dessus, avait commencé à lancer des tables rondes sur les métadatas. La Commission européenne est dessus. Je sais que le nouveau CNM, le Centre national de la musique, réfléchit aussi au chantier de métadatas. Donc on est dessus.
Ça serait génial d'avoir un genius qui juste en touche le bouton et tout se nettoie. Alors là, je rêve un peu. Alors, j'essaie de revenir sur un point. Donc, on est en France. Les musiciens qui essaient de percer, parce qu'en France, le marché est quand même un peu restreint par la langue. Comment est-ce qu'on fait différemment en France avec la population francophone, bien entendu, parce que je sais que tu as des clients canadiens, parce que ça limite beaucoup. Comment faire ?
Ben, pas tant que ça, parce qu'en fait, je suis en train de me dire que j'ai quasiment pas de clients qui chantent en français. Donc, la plupart.
Comme le nom de ta société.
Voilà. En fait, ils sont français. Hein. Enfin, j'ai des artistes belges, anglais. Voilà, bon, normal un peu pour les Anglais ou les Américains. Mais non, la plupart des clients chantent en anglais, justement dans cette volonté de s'exporter, d'aller travailler à l'international.
Je pense que M. Toubon ne sera pas content.
Non, je pense pas, mais il y a aussi une vraie réflexion qui est que bon, il y a des normes en France hein, sur les quotas de chanteurs francophones. J'ai un seul groupe qui chante en français qui s'appelle les Twin Twin en plus qui sont voilà, qui
ont le pareil pareil. Non, c'est pas c'est le jumeau.
Mais ils sont vraiment jumeaux en plus, c'est pour ça qu'ils s'appellent Twin Twin. Ils chantent en français, mais d'un autre côté, ils ont une couleur musique pop qui passe très bien pour les Français. Mais la plupart des groupes avec lesquels je travaille chantent en anglais parce que au-delà de la volonté d'export, il y a une culture anglaise, une culture musicale qui fait que lorsqu'ils grandissent avec voilà, des titres en anglais, des artistes en anglais, ils chantent en anglais. Et tous, quand on leur pose la question, ils m'expliquent qu'ils ne se voient pas chanter en français. Ils y arrivent.
La variété française ne les convienne pas ?
C'est un style qui a du mal à, voilà, à marcher. Quoique, regardons Nolwenn Leroy et ses Bretons qui marcheraient très bien. Mais en tout cas, nous, on chante, enfin, on travaille plutôt avec des artistes qui chantent en anglais.
Alors, je voulais revenir sur ton expérience. Tu as fait MySpace, tu as créé MySpace France et tu as vu la fin de MySpace France. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il est arrivé Facebook. Est-ce que tu sentirais que Facebook pourrait se planter de la même manière ou est-ce que c'est l'endroit où, comme tu dis, il faut y aller ?
Alors, à aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Personnellement, je déteste Facebook. Professionnellement, j'ai pas le choix. Donc, on peut absolument pas s'en passer. C'est primordial. Pour un artiste, il faut être sur Facebook. C'est vraiment primordial. Est-ce que Facebook peut se planter ? Je sais pas bien. Je pense qu'ils ont les équipes un peu costauds pour tenir ça. Je pense que si Facebook se plante, ça sera pas à cause du consommateur.
Comme toi qui n'aime pas.
Mais voilà, exactement. C'est que tous les jours, il y a des tas de choses qui sont rajoutées sur Facebook qui nous énervent terriblement. Donc, je crois que si Facebook se plante, ça sera à cause de l'usage consommateur et à cause des consommateurs qui iront vers d'autres choses. Et en plus, on est quand même dans une ère où tout va très vite. Et on sait très bien qu'il y a quelque chose à un moment qui va arriver et voilà, et qui va prendre la suite. Et on le sait. Enfin, et je crois vraiment que Facebook a tendance à s'y chier un petit peu des consommateurs, véritablement. Donc, il y a un moment, J'ai vu qu'il y avait vraiment une baisse au niveau des ouvertures de comptes, qu'il y avait beaucoup de fermetures de comptes, qu'il y a plein de choses qui étaient en train d'évoluer. Alors je doute que Facebook, avec ses 960 millions, je crois, de comptes, se plante maintenant. Mais c'est quelque chose qu'il faut suivre. En tout cas, on ne l'utilise plus de la même manière. C'est sûr.
Alors, quand tu as un artiste, tu es signé client, tu m'as dit, on parlait avant, il te fait un frais mensuel, un honoraire mensuel, ouais. Enfin, je ne m'en souviens pas comment on appelle ça, un forfait mensuel ouais. Peut-être. Et, mais la question qui se poserait, c'est comment est-ce que tu es jugé? Comment est-ce que tu mesures ta performance? Parce que c'est la question qui fâche en entreprise, les médias sociaux, le ROI. Comment tu juges et comment tu réponds par rapport à ça?
Bah, nous, on n'est pas vraiment assujetti au ROI de toute façon parce qu'on travaille sur plein d'autres choses. Ça va de monter des partenariats avec des blogs, par exemple, à des chroniques sur Internet, en passant par des deals de distribution physique ou digitale. Donc, on n'est pas que sur du ROI, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur le nombre de vues sur YouTube et le nombre d'amis sur Facebook. Ensuite, moi, je suis volontairement anti-achat d'amis et anti-achat de comptes sur Twitter et anti-achat de vues sur YouTube.
Quoi ?
Ouais, je le dis au effort. C'est horrible, hein. Je préfère stagner à 4000 amis ou 4005 ou 5000. Ce qui paraît tout petit, mais on est quand même sur de l'humain. On est sur des gens qui ont besoin d'être partagés, qui ont besoin qu'on ait des vrais likes, qu'on parle vraiment, qu'il y ait des vrais commentaires, qu'il y ait des vraies vues de clips. Parce que moi, si j'achète des vues sur YouTube ou si j'achète des amis sur Facebook, ça ne changera rien parce que le clip ne sera pas partagé, le clip ne sera pas vu et personne n'en parlera. Donc au final, c'est véritablement mentir à mon client. Donc ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ça met plus de temps parce qu'on est dans du vrai travail. On creuse vraiment nous-mêmes avec nos petites mains, donc ça peut être beaucoup plus long. Mais au final, on y gagne beaucoup plus.
Alors, je pense à maintenant les médias sociaux et community management. Certainement les artistes avec des grands chiffres derrière ça, il y en a. Comment est-ce que tu conseilles un artiste à gérer son propre compte, oui ou non, et enfin avec des égos qui sont parfois dimensionnés, hors dimensionnés, comment tu fais?
Ça dépend vraiment de la personnalité de l'artiste. On en parle tout le temps au démarrage. Est-ce qu'il le gère, oui ou non? Enfin, on fait un audit web en règle générale avant de travailler avec un artiste. C'est-à-dire qu'on va voir par sa présence partout sur les réseaux sociaux, de Twitter en passant par YouTube. On va regarder comment est-ce qu'il gère sa chaîne YouTube, par exemple, comment est-ce qu'il gère son Facebook, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Puis après, on lui dit, est-ce que tu veux qu'on poste ou pas? Et s'il préfère garder la main sur le Facebook, dans ce cas-là, on fait toutes les semaines un petit point en disant, attention, faudrait que tu fasses ça, ça serait mieux que tu fasses ça. Ils sont super ouverts la plupart du temps, même tout le temps quasiment, et souvent on est administrateur d'un compte. Pas forcément pour le poster à la place d'eux, mais pour être là si jamais il y a un problème, quand tu pars en vacances, pour poster des choses qui sont importantes. Et on essaie, je pense à un artiste qui s'appelle Imhotep, qui est un des membres d'IAM. On met entre parenthèses en fait nos initiales quand c'est nous qui postons, pour montrer que c'est nous qui postons. Avec l'agence, s'ils viennent nous voir, ils savent ce qu'on fait, ils savent pour quoi on travaille, donc ils sont plutôt super ouverts par rapport à ça. Donc on n'a pas trop de problèmes pour gérer les comptes, ou pas d'ailleurs, mais si on les gère pas, on essaie d'être derrière quand même, pour leur expliquer ce qui va pas.
Comme il faut faire avec les marques. Alors on a aussi partagé, avant de s'encontrer, l'histoire de le Grateful Dead. Et donc c'est quelque chose qui m'anime et bon, enfin pour plein de raisons et que je vois très intéressant pour la construction de communautés. Et si j'avais à résumer, c'est qu'ils avaient créé la communauté offline avant de la créer en ligne et derrière en ligne évidemment ça marche très bien. Pardon. Pour les musiciens, j'ai envie de dire pour revenir, pardon, les hommes politiques et les femmes politiques. Ceux et celles qui sont capables de vivre dans la communauté et d'être dans la rue, serrer la main et avoir une présence intéressante, engagée, humaine, dans la rue. Si c'est quelqu'un qui est capable de gérer une communauté, et j'ai envie de citer Obama comme étant un bon exemple. Après, tu as les hommes et les femmes politiques qui sont un peu plus dédaigneux, qui n'ont pas le même contact. C'est difficile de gérer en ligne. Est-ce que tu as des cas de personnes qui... ou tu peux citer, qui sont extraordinairement bons offline, qui font un bon exemple offline, qui sont ensuite bons en ligne. Ou est-ce qu'on pourrait dire en concert, qui a un autre style d'expérience en concert, qui va se refléter dans la manière qu'ils gèrent la communauté. Tu vois ce que je veux dire?
Je vais reciter Pascal, donc Imhotep, un des membres d'IAM. qui est extrêmement généreux en concert, qui fait venir des tas d'amis à lui sur scène, qui fait venir des fans, qui en même temps, en ligne, n'hésite pas à les commenter sur des blogs, des petits blogs. Je l'ai vu ce week-end sur Facebook, il était sur Music Please, en disant merci beaucoup pour la chronique, c'est super sympa, il a signé de son nom et il y a été. Et j'ai donc le patron, enfin le patron, si on peut dire ça, le patron de Music Please, que c'est un blog, mais le journaliste, le rédac-chef, le bénévole de Music Please, qui depuis deux jours fait des sauts partout sur Facebook en disant super, il est venu me commenter, il est venu me commenter. Et ça, ça crée une visibilité et vraiment un partage et un bonheur voilà pour la personne de Music Please. Donc oui il est très très présent. Après, à contrario, il y a aussi ceux qui sont très présents offline qui font rien en ligne, ou ceux qui sont très présents en ligne mais qui font rien offline. On a aussi ce problème là.
Est-ce que ça, le premier, s'il s'en sort, tant mieux. Ouais. Mais le deuxième me paraît dangereux.
Oui, c'est que moi, j'arrête pas de dire qu'on ne construit pas sa fanbase, elle vient de la vraie vie.
Oui, autant on peut se rencontrer, voilà, comme on a fait online, mais après, il faudrait que ça serre la main quelque part.
C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que la fanbase, elle vient de la vraie vie, c'est du dur. Et que si derrière, on concrétise pas par un concert, par des rencontres, même par un mini-concert, par un showcase, il y a des artistes qui font des concerts en appartement, par quelque chose, la fanbase ne tiendra pas.
Alors, ça me fait penser à l'histoire de l'image, le contrôle de l'image. Il y a certaines marques, notamment dans le luxe, qui sont sur un espèce d'acharnement sur le contrôle. Et ensuite, je regarde dans la musique un groupe comme Pink Floyd. Je suis allé les voir une dizaine de fois. Bah, chaque concert, c'était pareil. Non, ils étaient sur le même concert chaque fois. Un événement, une expérience extraordinaire, mais toujours pareil. Et quelque part, j'ai envie de dire, ce contrôle, manie de contrôle, fait en sorte que ça fait un peu difficile d'en passer à une communauté derrière. Après, il y a certaines figures en France qui sont un peu dans cette même manie. Il y a certainement d'autres musiciens qui sont un peu sur cette espèce de toujours parfait. Madonna, je prends un exemple, c'est quelqu'un qui est dans l'espèce de... Et pour autant, elle était ma cliente à un moment donné. Elle est control freak. Est-ce que c'est possible d'être control freak et être bon sur le digital?
Plus maintenant. C'est terminé, ça. On va aux États-Unis, Bon Jovi, bon McCartney, que j'aime pourtant beaucoup, Madonna ne vendent plus leurs concerts. Madonna, les concerts ne sont plus pleins du tout. Donc non, justement, en 2012, on a besoin d'une expérience différente dans les concerts. C'est-à-dire que le public a pris l'habitude de voir des choses différentes sur Internet, de voir du live sur Internet, d'avoir accès à des choses différentes sur Internet. Donc lorsqu'on va justement à un concert, déjà partager le même concert avec, je sais pas, 10 000, 12 000 personnes, je sais pas exactement combien est-ce qu'on peut être dans un stade, ou beaucoup plus, il n'y a plus envie de ça. Il y a envie de quelque chose de plus intime, de plus joli, ou alors un spectacle totalement différent, effectivement, où on y va, on partage avec 12 000 personnes, mais c'est énorme. Et c'est totalement différent. Mais on le voit, regardez Johnny Hallyday, icône en France, qui est obligé de passer de stade à des petits zéniths parce qu'il n'arrive plus à remplir. Parce que justement, c'est toujours la même chose, parce que y a une vraie évolution et qu'on n'a plus envie de ce type de choses-là. Moi, je vois les concerts que j'ai été voir, c'est des concerts de LCD Sound System dont je suis vraiment fan. Enfin, dont j'étais vraiment fan parce qu'ils sont séparés.
Mais de rester fan.
Je suis totalement restée fan. J'ai vu sur Internet des concerts pour Pitchfork, par exemple, où c'était des choses totalement délirantes. En même temps, en France, j'ai réussi à aller voir au Bataclan, donc c'est pas non plus la salle la plus énorme de Paris. Et là, on a envie d'y aller. Mais je crois que les concerts dans les stades qui sont toujours les mêmes, justement, c'est plus du tout ce qu'attend le fan. Il y a une évolution aussi à ce niveau-là.
J'ai envie de faire un petit parallèle, l'esprit tordu. Il y a le spot télé, 20-30 secondes, toujours pareil, mass media, équivaut au stade, même chose tous les jours, ouais, chaque nuit. Et puis, la petite intimité, l'événement, l'expérience unique où on parle avec les gens dans la salle. Il y a un autre truc qui se passe. T'as vu ce qui s'est passé hier soir? Alors, c'est quelque chose d'unique. C'est pas la même chose répétée chaque fois.
Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Je réfléchissais effectivement au spot de 30 secondes. On parlait des marques de luxe qui étaient hyper control freak. Moi, il y a certains spots de marques de luxe que je ne comprends pas, qui partent dans, je sais pas, ils ont leur propre code probablement. je ne les comprends pas et ça me parle pas et ça parle pas, ça touche pas, ça touche pas l'intime, ça y a pas de sentiment dedans. Et je crois qu'on est vraiment avec Internet, on est dans une ère d'intime. Regardons Facebook, Twitter, YouTube, on est vraiment, on doit toucher les gens. Et c'est ça qui va vraiment marquer, c'est qu'est-ce qu'on apporte en fait et quel sentiment on arrive à faire transpercer.
Alors une question surprise, je ne veux pas te frire, mais une marque fétiche que tu préfères, que tu adores, qui incarnerait toi, Virginie Berger.
Une marque, qui m'incarnerait, Repetto, je pense.
Pardon ?
Repetto, qui a totalement réussi à se transformer, à devenir quelque chose, à rester totalement indépendante. En allant vers des choses auxquelles personne n'aurait pensé, alors que c'était une marque de chaussons de danse il y a 30 ou 40 ans.
Ok, Virginie, pour ceux et celles qui te connaissent pas, comment est-ce qu'on peut te trouver ?
Alors, sur Internet, vous pouvez me trouver sur mon compte Twitter, Virberg, V-I-R-B-E-R-G. Sinon, sur mon site, virginieberger.com. Et si vous voulez m'envoyer un email, c'est vberger@dbth. Ce sont les initiales de Don't Believe the Hype. Voilà, dbth.fr.
Génial. Virginie, je te remercie beaucoup pour cette petite interview charmante.
Merci beaucoup.
Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baudry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
Hello, this is Gary Chachot welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.